Ah bon, moi c'est on est de nouveau à 21h.
Attachez vos ceintures et vivez l'aventure automobile jusqu'à 22h sur Indestar.
Starter en direct et en podcast sur indestar.fr.
Ah bah voilà, on y est. Bienvenue dans Starter sur Indestar. Je me suis dit, ça y est, on a reculé de 5 minutes.
On n'a rien vu. On n'a rien entendu,
évidemment. Hein, bon, j'espère que tout le monde va bien, les amis, que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Ça y est, c'est lundi matin. Vous êtes reparti au travail, vous avez fait votre journée. Et là, vous dites, lundi soir, je n'oublie pas Starter. Indestar.
Non, c'est mieux en théorie, mais bon.
Après, vous pouvez avoir oublié, vous pouvez être mercredi après-midi, et voilà, comme nous, avoir des petits décalages horaires. Écoutez cette émission en podcast, hein, puisque c'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute internet. Vous allez sur votre appli de podcast, vous cherchez Starter, et puis là, vous nous trouvez, simplement. Ouais, vous pouvez nous écouter en 10 fois sans frais, en plus, c'est ça qui est bien.
Tu te trompes d'une heure, c'est pas grave, tu réécoutes un podcast.
C'est vrai,
tu
l'as quand même. Teddy, ton week-end, ça s'est passé comment? Est-ce que t'as pris la voiture?
Eh ben, techniquement, oui et non.
Oui, et non.
Oui, j'ai pris la voiture, mais non, pas la mienne.
Ah, t'as pris celle de ta copine.
Ouais, j'ai pris son C4, ouais. Je sais plus quoi.
On avait un petit accident d'ailleurs au bord du chemin. Une voiture qui était rentrée.
Ah, t'étais là? Ah, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, on était les mêmes dans la voiture. Ouais.
Parce que je suis venu en Solex, rappelle-toi, chez toi. Et après, on a pris la voiture pour aller à la fameuse fête du poulet grillé. Ouais.
Petite fille de village où ils réunissent une vingtaine de bagnoles d'époque.
Et hein. T'es gentil encore. Il y en avait 10. Non, c'est oui, une vingtaine, c'est pas mal. Et 4 tracteurs aussi. Ouais. C'était les tracteurs et les voitures, mais.
Thème années 60.
Donc on avait de la ronde, on avait de la 2 chevaux, on avait. Alors on avait des 4L, mais un peu en morceaux, qui faisait une sorte de 4L cross en fait, où ils tournent pendant 24 heures et puis ils se destroyent de la 4L. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des petits coupés 403 qui étaient sympas.
64.
Oui, il y avait. Qu'est-ce qu'on.
La ronde.
On avait une Alpine A110 aussi.
Même deux, je crois.
Deux, alors dont une qui était un petit peu bizarre, ouais. Ouais, c'est ça.
On a vu quelques.
Et puis une estafette, parce que.
Le estafette, c'est dans la famille.
Aussi de l'estafette. Hein, et c'est de ta famille en plus. Voilà. Avec, dans la remorque, une voiture à pédales motorisées avec des petits moteurs. Alors c'était des moteurs de Solex et puis après des moteurs de mobilette. Et ouais, c'était une des premières voitures sans permis finalement, hein, que tu pouvais conduire à l'âge de 14 ans. Et trop tu chelou. Pouvais être dedans à deux. Et par contre, fallait la démarrer. Il y a des pédales à l'intérieur, ouais, pour vraiment la démarrer, la voiture.
Je vais leur demander qu'on fasse un essai.
Ah, ça serait cool, hein, une voiture, même à une course, parce qu'il paraît qu'ils en ont plusieurs. Enfin, une course de voiture à pédales motorisées.
C'est terminé comme le Solex et le vélo. Hein.
Peut-être. Allez voir l'essai qu'on a fait du Solex sur la chaîne YouTube de Starter. Vous tapez Starter sur YouTube et vous allez le trouver. Et vous allez voir que Teddy avec le Solex galère. On ne vous en dit pas plus.
Je préfère le vélo, je crois.
C'est vrai, exactement. On a un sondage.
Starter, le sondage.
Aimeriez-vous participer, si on vous demandait, si vous en avez l'occasion, au design d'une série spéciale d'une voiture? Eh bien, à mon plus grand étonnement, vous êtes une majorité à répondre non, j'en ai rien à battre.
Ce ne sont pas des artistes. Il est ça au point
matériel. 60%, vous, non? Pas kiffé.
Je pense que t'aurais dit oui, moi aussi.
Ah ouais, ouais. Bah oui.
Dans des moindres mesures, enfin, je peux pas tout designer de A à Z, moi perso. Mais
non, bah moi aussi. Si tu me confies le design, je le fais. Non, mais après.
Ah, il faut que ça soit joli, parce que je peux le faire aussi. Hein.
Oui, bien sûr. Mais après, c'est pas pour la gloire, si tu veux, c'est plus non, pour la
personnalisation à l'extrême.
Ah ouais, et puis après, on a une voiture qu'on a dessinée qui roule dans la rue.
Mais c'est ça.
C'est ta rue. C'est bien. C'est. Ouais. Ça...
Le sentiment, je partage.
Un truc que j'ai un petit peu fait dans une très grande moindre mesure, c'est sur la 4L, tu vois, que j'ai entièrement restauré, que j'ai personnalisé. Oui. On va dire que je l'ai un peu, c'est une série spéciale Indestar, quoi.
Il est un peu monté lui-même.
Voilà. C'est du tuning. En fait, c'est ça, hein, le tuning, c'est quelque part, c'est une série spéciale d'une voiture banale, quoi. On peut le voir de cette façon-là.
On peut voir ça comme ça, mais bon, c'est. Tuning, j'ai envie de le mettre dans le côté négatif.
Ah, mais non, pas forcément. On avait parlé de custom, on avait fait une émission.
Voilà,
sur
custom, c'est bien. Tuning, c'est moins.
Voilà, mais c'est la façon dont on interprète les choses. Ouais. Enfin, le custom, c'est bien, excuse-moi, mais la Paris Hilton Rose façon Pimp My Ride, et bon, je suis pas convaincu du résultat.
C'est vrai,
sur une Bentley, ça a beau être un beau modèle et ça a beau coûter une blinde, c'est pas pour ça qu'on arrive forcément à un bon résultat.
Non, mais elle la revendra quand même
donc
cher.
Quoi, l'argent ne fait pas tout.
Non, ça c'est clair.
On a de l'actu pour vous.
Starter, les brèves.
Alors, on a été voir faire un petit peu le tour de l'actualité automobile. Moi, j'ai deux brèves en une ce soir sur la fin de la vente de voitures neuves en moteur thermique, ce qui inclut donc les voitures essence, les voitures diesel et les voitures hybrides. On avait peut-être, vous avez peut-être entendu parler de la date de 2035, c'est ce qui était pressenti.
Ben, et ça c'est sera, ce qui sera.
Ça sera 2035. Ça officiellement, voté, crois, ils ont 8. Été votés. Oui, alors, il n'y a pas eu tous les votes encore. C'est-à-dire que là, il y a eu un vote, j'en sais pas vous expliquer. Oui, alors majoritaire, heureusement, sinon ça ne serait pas passé. Mais il y aura encore un vote après des États européens. Il faut que ça soit décidé par pays. Il y a encore un petit peu de marge avant que ça soit vraiment entériné. Mais en tous les cas, le Parlement européen l'a voté mercredi dernier. On s'y attendait. Cela dit, il pourrait y avoir une petite dérogation, si on s'y attendait moins, sur des marques qui produisent très peu de voitures, et notamment les marques de sport. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des marques italiennes qui se sont réunies et qui se sont dit, bon, ouais, mais nous, quand même, on fait des voitures de sport. Faire des voitures de sport électriques, c'est quand même pas franchement vendre. Donc, ils ont demandé des dérogations et il en ressortira deux dérogations. La première, c'est pour celles qui vendent moins de 10 000 voitures par an. Donc, ça inclut notamment Ferrari, Lamborghini et compagnie. Ouais. Qui pourrait avoir, alors c'est pas ouf en vrai, hein, il pourrait avoir une marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'au lieu de 2035, ça serait 2036. Ils ont gagné un an. Mais j'aurais ils ont gagné aussi, normalement il y a un barème progressif, tu sais, vers l'annulation de toutes les émissions CO2. Ouais. Et ils ont, ils auraient gagné, parce que ça n'a pas été entériné non plus, mais ils auraient gagné le fait que ça soit plus souple, c'est-à-dire qu'en gros ils pourraient passer, alors, je le schématise parce que c'est pas exactement ça, mais qu'ils pourraient passer de ce qu'on a actuellement au tout électrique. Tu vois, en 2036, genre t'as du V12 en 2035 et boum, un tout électrique en 2036. Ça sera pas exactement comme ça que ça va se passer, mais un peu plus de souplesse que les autres marques. Donc bon, sur le papier, c'est pas une grosse faveur. Cela dit, il y en a, y aurait une autre faveur pour ceux qui produisent moins de 1000 voitures par an. Alors là, ça réduit, hein, c'est-à-dire que Ferrari, Lamborghini et compagnie, ça passe plus. Par contre, Bugatti, Pagani, ce genre de marques, ça pourrait le faire. Même des petites marques, on en avait parlé, tu sais, mais les marques indé, etc., ça pourrait le faire. Où là, théoriquement, ils pourraient continuer à faire du thermique c'est au-delà de 2035-2036, tu vois, un peu comme ils veulent, je pense, avec peut-être certaines choses à respecter. Mais étant donné, oui, alors ça, c'est évident, mais étant donné que ça serait des modèles très rares et un petit peu la même dérogation que pour les modèles de collection,
c'est tellement rare finalement, qu'au final,
ça n'a pas d'impact sur la planète. Voilà. On saura le 28 normalement juin si ça passe réellement au Parlement ou pas, mais bon, en tous les cas, c'est bien engagé dans ce cas-là comme la date fatidique de 2035.
Ok, ok.
Qu'est-ce que t'as pour noter?
On va partir sur une note un peu plus joyeuse.
Ah ouais, ouais.
Enfin, un peu plus joyeuse, si. Une alternative à l'électrique, c'est l'électrique. Waouh. Vous y attendez. Non, mais le solaire. Voiture solaire, on en a sans doute. Enfin, vous avez sans doute déjà entendu parler depuis un moment. Ça a sans doute été rêvé.
Oui.
Et là, c'est concrétisé. Ouais, je sais. Non, rêvé dans le sens.
Un panneau solaire sur son toit, ou je préfère avoir un toit ouvrant. Hein. Tu le mets où le toit ouvrant le toit, là, tu,
y a pas
il est où le cabriolet?
Il n'y a pas de cabriolet.
Ah, voilà.
T'as une surface, je crois, de 5 mètres carrés de panneaux solaires sur ta bagnole. Oui. C'est pas énorme, mais ça te permet quand même d'avancer.
Oui.
Selon la norme WLTP, tu fais 625 km quand même.
Ok.
Alors je sais pas pourquoi la limite.
Mais alors quand il pleut, ça donne quoi?
Quand il pleut ou qu'il fait moche, je pensais par exemple de nuit. Nuit, t'as vraiment pas de soleil, tu fais 70 km max. Donc faut vraiment pas partir en vacances de nuit.
Non mais tu vois, ça c'est le genre de voiture alors qui a un intérêt, je pense.
Je trouve qu'il est plus intéressant que l'électrique tout court.
Oui. Mais c'est, du coup, c'est, c'est de l'hybride.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas de l'hybride moteur thermique électrique, c'est de.
Solaire et électrique.
Solaire et électrique. Et là, oui, c'est un intérêt.
Mais ouais.
Mais par contre, le fait que si c'est que solaire et que tu te dis, ah ouais, mais là, je prends la route de nuit et tu te tapes 50 bornes et t'es en panne. C'est bidon
70.
Quoi. Ouais, 70. Et, mais imagine, il fait froid, tu mets le chauffage, etc. C'est 50 bornes. Tu vois. Donc, comme une voiture électrique où tu peux rien mettre dans ta voiture. Parce que
après, là, t'as d'autres différences avec une voiture électrique qui sont majeures. Ouais. Dans le sens, par exemple, le poids. On sait, les voitures électriques, c'est des paquebots.
C'est lourd,
c'est au moins du 2 tonnes, je dirais. Celle-là, oh, j'exagère. Oh. Ça dépend lesquelles.
Oui, oui, oui.
Celle-là a fait que 1500 kilos.
D'accord, mais alors parce qu'il y a quand même. Il ne stocke pas du tout le solaire. T'as pas une petite.
Si, pour faire 625. Si, ils doivent le stocker, mais bon.
Mais moins, t'as moins de batterie que sur une voiture électrique, ouais.
Ils ont aussi fait un système de motorisation assez inédit, dans le sens où que t'as 4 moteurs, un pour chaque roue.
Ah oui.
C'est le truc le plus efficient. Enfin, c'est. entre guillemets, la voiture électrique la plus efficiente qui existe.
Ouais, ils y ont déjà pensé. C'est, ça a déjà été adapté sur des modèles de série, notamment en micro-hybridation sur des ultra sportives, où tu as le moteur principal en thermique et que tu as deux moteurs électriques qui sont disposés dans, dans deux roues, voire les quatre roues pour faire une quatre roues motrices. Ouais.
Mais après, est-ce qu'ils sont aussi efficients que celle-là? Peut-être pas, je sais pas. C'est ce qu'ils vantaient en tout cas comme mérite. Hein. Elle s'appelle la Lightyears.
Ouais.
Zéro.
D'accord, parce que c'est le premier modèle et puis Lighty parce que c'est pour le solaire, quoi, on imagine.
Ouais, c'est le nom de l'entreprise, j'imagine. Genre, ouais. Voilà, donc bon, ils ont prévu d'en faire 946.
D'ici la c'est fin. Très précis.
Ouais. Ouais. C'est la première série pour avant, pour après lancer une série ouverte vraiment au grand public.
Ouais.
Parce que celle-là, cette série-là, va être vendue à 250 000. Donc effectivement, pas ouvert à tout le monde.
Oui, c'est un petit peu comme la XLR.
Si ça marche.
XL1 de chez Volkswagen. Ouais.
C'est ça. Si ça marche, s'ils les vendent, ils vont produire un modèle à 30 000.
Ah. Okay.
Beaucoup plus raisonnable. Alors j'imagine qu'ils vont faire sauter beaucoup de choses, mais
le solaire. Ça serait bête quand même.
Ouais. Mais je trouve le concept innovant. Et tu vois, si j'ai envie, enfin, si je devais acheter une voiture électrique,
ouais.
Soit c'est une Tesla, soit c'est celle-là. Hein. Clairement.
Enfin, une Tesla, c'est juste une banale voiture électrique.
Ouais, mais c'est joli.
Ouais.
Ouais. Puis okay. En plus, ça cote bien en ce moment.
Ça coûte cher, surtout en ce moment.
Oui. mais ça cote bien dans le sens où ceux qui ont acheté une Tesla à l'époque, quand c'est sorti, on va dire, maintenant, ça, là, il y a une inflation un peu du prix des Tesla. Ça augmente de quasiment 30%.
Ouais.
C'est énorme.
Oui.
Sauf que ta vieille Tesla que t'as acheté, enfin vieille, hein, entre guillemets.
Tu peux la revendre actuellement.
Plus cher
que tu l'as acheté.
Que les voitures qui se vendent.
Ouais, bah oui, ça m'étonne pas parce qu'en plus avec la crise des semi-conducteurs, ils sont en galère d'approvisionnement. Donc qui dit galère d'approvisionnement dit demande. Et donc si t'as acheté la Tesla il y a 6 mois, ouais, tu peux la revendre plus cher que tu l'as acheté.
Mais c'est surtout qu'il y a il y a une grosse demande hein, de Tesla. Ils peuvent pas fournir, enfin j'y arrive pas.
Ah, pourtant avec 30% d'augmentation du prix, moi ça me dissuade.
Ah non, là il se fait plaisir, c'est juste qu'il n'y a pas de concurrence en fait.
Ouais, donc.
Je sais plus, c'est Mercedes quoi qui tentait avec un truc de concurrencer.
Ah ouais, il y en a plusieurs quand même des concurrents hein, maintenant. Il y a chez BM, il y a chez.
Ils sont en.
Ouais. Mais je comprends pas, en fait j'ai du mal à comprendre quand même le succès de Tesla au-delà du fait d'il y a 5-6 ans si tu veux. Mais aujourd'hui, acheter une Tesla en vrai, il y a l'avantage, et on en avait parlé, des bornes. De recharge, sauf que maintenant les bornes Tesla ils sont accessibles à tous.
Je pense pas que c'est tant dans l'utilité, enfin dans le fonctionnement de la bagnole et tout ça que le succès s'explique. Je pense que c'est plus en termes d'influence et d'Elon Musk en fait, tout court, juste à
Ouais, sauf que en fait.
Ça n'a rien à voir avec la voiture, je suis d'accord. Mais je pense que c'est ça parce que on vit quand même dans une période, enfin je trouve hein, qu'on est vachement influencé juste par les personnes.
Ouais.
Tu t'en fous du produit, si telle personne là, c'est Kim Kardashian à cette bagnole.
Oui, c'était le sujet de la semaine dernière.
Elon Musk, c'est le people des bagnoles actuelles.
Ouais.
Qu'il faut suivre. En tout cas, qu'on suit.
Ouais. Je suis un peu dubitatif là-dessus, mais en tout cas, c'est. De toute façon, j'ai pas prévu d'acheter une voiture. Donc, ça sera pas une Tesla non plus.
Voilà.
Ce soir dans Starter, l'aventure du design automobile. Alors l'aventure partie 1, hein, parce que le sujet est
beaucoup trop long.
Voilà, donc on s'est dit qu'on allait en faire une partie aujourd'hui et puis une partie la semaine prochaine. Alors bizarrement, l'aventure du design automobile, ça a débuté il y a pas mal d'années, mais un peu après quand même l'avènement de l'automobile.
Ce qui est totalement logique pour la plupart des choses, dans le sens où quand tu inventes quelque chose de nouveau, tu te consacres sur l'aspect purement fonctionnel.
Technique. Ouais,
voilà, technique fonctionnelle. Et après, tu te penches peut-être sur un petit bout d'esthétique. Et au final, après, oui, tu te mets de l'esthétique totale parce que tu es à 100% sûr de ce que tu as fait déjà en fonctionnel.
Oui, et puis en fait, au départ, si tu veux, à part la base technique, donc il y avait le châssis, les roues, le moteur, la direction, tout ça, et finalement, on avait besoin d'ajouter que des petits éléments. Alors, on a mis des phares parce qu'on s'est dit, tiens, c'est cool d'éclairer la nuit. Ouais. On a mis un pare-brise parce que c'est chouette cool de ne pas prendre les moustiques là dans la tête. Éventuellement, on pouvait y mettre des petits panneaux de carrosserie sur le côté et une toile sur le toit. Mais en plus de ça, au départ, c'était même pas les constructeurs qui faisaient ça, c'était les carrossiers. Donc le constructeur en fait il faisait la base de la voiture et après t'allais habiller avec cette base là, t'allais habiller ta voiture chez un carrossier qui faisait avec ce qu'il avait. Donc tu vois, il avait déjà toute la base de la voiture, donc il te l'habillait, il mettait des panneaux de carrosserie, mais au niveau design c'était quand même un peu léger. Vous voulez une porte ici, allez vous la rajoute, tu vois, c'est l'idée elle t'aime. Alors en 1908, il y a quand même un événement marquant en Amérique, c'est la sortie de la Ford T, dont on a déjà parlé environ 10 000 fois dans Starter, avec le principe du travail à la chaîne. La T, ça devient la voiture qui est destinée au peuple. au peuple américain, hein, évidemment. Elle a rien d'exceptionnel en termes de design, mais par contre, elle est fabriquée de A à Z par les usines Ford, elle est ultra vendue, donc elle est reconnaissable par rapport à toutes les autres marques.
Oui, parce qu'elle a qu'une seule image, entre guillemets.
Oui, c'est ça. Et là, si tu veux, ça envoie un message aux autres constructeurs en disant, bon, si tu veux savoir que Renault existe, va peut-être falloir l'afficher quelque part sur ta voiture.
Renault, en gros, dessus, ça ne suffit pas.
Il n'y avait pas même forcément marqué Renault, en gros. Donc, c'est pour ça qu'avec ce principe de châssis, coque, etc., et de carrosserie de l'autre côté, il a fallu trouver un emplacement au départ pour qu'on voit la marque du constructeur. Ouais. Et l'endroit qui se voit le plus sur le devant de la voiture, c'est le radiateur. Ils vont inscrire le nom de la marque sur le radiateur, ou un peu plus tard quand ils ont repris le contrôle total, parce qu'ils vont le faire, hein, de la fabrication comme l'a fait Ford, ils le mettent sur la calandre qui cache le radiateur. Ouais. Et tu remarqueras qu'aujourd'hui encore, le fait d'afficher le logo sur la calandre, c'est un des endroits toujours privilégiés pour y mettre son logo. Quoi.
Moi, j'aurais pensé qu'ils auraient pu le faire sur le capot. Un gros symbole sur le capot,
alors,
ça va être visible.
Ils vont ajouter, non pas sur le capot, mais disons au-dessus du radiateur, parce que t'avais le radiateur et puis t'avais le bouchon de radiateur.
Oui, oui.
Et au-dessus, ils vont y ajouter leur emblème. Alors on connaît par exemple la mini statue, la Spirit of Ecstasy chez Rolls-Royce, là, tu sais, la petite dame avec les ailes. Ouais. Ça, c'est un sculpteur anglais, Charles Keitz, qui l'a dessiné pour Rolls en 1911, exactement. On a aussi ce qui existe toujours, c'est la fameuse étoile chez Mercedes, à trois branches. Hein, donc on avait trois branches pour les trois domaines d'activité de chez Mercedes qui étaient les avions, les voitures et les bateaux. Ouais. Bon, les bateaux et les avions chez Mercedes, j'en ai pas trop vu, mais bon, j'ai pas tout l'historique non plus, ça a dû exister. L'ambition était là en tous les cas. Arrivent les années 20, et là, on commence vraiment à parler design quand on découvre les bienfaits de l'aérodynamisme. Parce que les années 20, si tu veux, on a pas mal bossé avant sur tous les organes. Comme tu disais tout à l'heure, on a commencé à bosser sur le fait même qu'une voiture, ça peut rouler et que ça soit suffisamment viable pour pouvoir rouler sur une route
normale.
Maintenant,
on veut peaufiner le truc.
On veut peaufiner le truc et on se rend compte, oh là là, que moins une voiture est freinée par l'air, plus elle avance vite.
L'aérodynamisme.
Donc, on se pose la question, quel est le truc le plus aérodynamique possible au monde? Et on se dit, en fait, c'est la goutte d'eau.
Voilà, la goutte d'eau,
La goutte d'eau qui tombe du ciel, elle prend cette forme de goutte d'eau de la manière optimum pour optimiser sa chute, quoi.
Et ce principe-là, on le retrouve déjà dans les bateaux, en fait, avec les catamarans, tout ça... Les constructeurs automobiles, ils le voient, là-dedans.
Et les éplins aussi, dans les airs, qui avaient cette forme de suppositoire. Hein, et on s'est dit, t'aimes bien les éplins et t'aimes bien Led Zeppelin.
Pas trop.
Bref, on se pose la question, et on va dessiner, dans l'automobile, va apparaître le design en forme de goutte d'eau. Alors, je dis même en automobile, mais c'est un peu dans tout. C'est-à-dire que, au-delà de l'automobile,
de l'eau.
Ah, mais non, mais ouais. T'as des tailles crayons en forme de goutte d'eau parce que t'as des tailles crayons aérodynamiques. On s'en fout, mais c'est un mouvement de design. Et cette période, donc le premier, on va dire, courant de design automobile, on appelle ça le streamline. Ça pourrait être le nom d'un serveur Twitch, mais streamline, c'est le nom de ce courant de design. D'accord. Et on va continuer dans cette idée-là, à fond dans le streamline jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, à une période, donc avant, dans les années 30, où les capots s'allongent parce qu'on y met des moteurs de plus en plus gros pour aller de plus en plus vite, pour montrer aux autres pays c'est qui le papa. Tu vois, c'est très important, surtout quand t'es dictateur, hein, quand t'es un Hitler ou quand t'es un Mussolini.
Il faut de la grosse bagnole des familles.
Voilà, technologiquement, tu veux, tu veux montrer que t'es le meilleur.
Qui n'existe pas à l'époque, mais voilà, il faut
et
pas
puis, en sachant qu'à l'époque, d'ailleurs, Mercedes avec Benz, ils avaient inventé le moteur à propulsion et. Pas à propulsion, un moteur à.
Traction.
Non, le moteur à.
Hydraulique.
Je vais pas y arriver, mais bref, vous l'avez compris, le moteur moderne et à combustion, on va dire. Ouais. Et après, ils avaient eu du retard, quoi, que ça soit l'Italie, on était derrière la France, quoi. Donc, ils étaient un petit peu en ballottage derrière la France. Donc là, il fallait montrer à base de course, hein, toujours dans ces années-là, que on était le meilleur. Et là, on arrive donc aux années 30, où il y a quand même une évolution en termes de châssis. Justement, on n'a plus de châssis, on a ce qu'on appelle la monocoque, tu t'es dit.
C'est ça, la carrosserie monocoque. Comme je te disais, les constructeurs se sont penchés sur ce qui semblait être le plus efficient en termes de pénétration dans l'air ou pénétration tout court, les bateaux. ça marchait bien les bateaux, surtout les catamarans, trimarans et tout ça. Oui, t'avais qu'une seule surface en fait, c'était juste un bloc qui touchait l'eau et c'était solide, c'était efficace, tout ça. Et il y a un gars de chez Lancia, je sais plus son nom, je sais pas, Vincenzo, non.
Monsieur Lancia, quoi.
Monsieur Lancia des familles, qui s'est dit, mais pourquoi pas adapter cette technologie aux bagnoles. Donc, il invente la fameuse carrosserie monocoque. Donc, simple, hein, le châssis est fusionné avec la coque.
Ouais, de la carrosserie.
Monocoque.
Ouais.
Ça apporte quand même pas mal d'avantages, notamment en termes de poids, parce que souvent c'est en alu, en fibre de carbone. Alors peut-être à l'époque, fibre de carbone, je sais pas.
Non.
Ouais, très
non,
peu.
Non.
Bon, en termes de poids, c'est vachement efficace parce que tu perds du poids, les rivets, tout ça. Enfin, bref. La solidité.
La rigidité globale.
Rigidité globale, même la résistance au choc aussi. Ouais. C'est plutôt efficace. Et la tenue de route aussi, ça y joue.
Ah ouais, peut-être. Ouais. Effectivement.
Ouais, légèrement.
Pour la répartition des masses.
La répartition des masses, totalement.
Ouais, une incidence, ouais.
Donc il est content, il invente ça pour sa Lancia Lambda. Hein,
c'est comme la sonde.
Ouais, c'est une voiture quelconque, la Lancia quelconque. donc voilà, il lance ça, et puis évidemment, tout le monde va reprendre le concept. Enfin, tout le monde. Si.
Alors pas dans l'immédiat parce que
ça va mettre du temps à s'installer, mais comme toute innovation qu'on croit pas tout de suite, on se dit putain mais sérieux le gars.
Et ça a des inconvénients aussi quelque part, parce que ça pour décliner, faire des déclinaisons de véhicules, c'est plus facile sur un même châssis.
D'avoir un châssis, oui, parce que là faut vraiment avoir toujours les mêmes choses.
Ouais, c'est ça. Par contre, c'est vrai que tu peux intégrer par exemple le pare-choc ou les phares directement sur cette monocoque, et t'es pas obligé de l'attacher au châssis. Ça te permet un peu plus de liberté en termes de design,
modulage.
Quoi. Modulage.
C'est beau ça.
Ouais, de modulation de fréquence.
Donc voilà, monocoque, t'es content, t'as une belle voiture qui tient la route, qui est solide, plus solide qu'à l'époque.
Voilà. Donc, alors je vous passe la Seconde Guerre mondiale où le design des chars, en vrai, on s'en foutait un petit peu, hein, du moment qu'on désinguait les ennemis, on était content. Et après la guerre, alors là, il y a deux mondes. Il y a ceux qui ont bien vécu la guerre, hein, style les États-Unis. Ouais. Les gens ont du fric, ils veulent acheter le nouveau, ce qui est devenu le nouveau symbole de représentation sociale qui est la voiture.
Plus c'est gros, plus ça passe.
Et voilà, et c'est quoi justement le marché aux États-Unis dans les années, on va dire, dans les années 50?
Alors, en USA, ce qu'on veut, hein, c'est de la voiture, de la grosse, du moteur, du V8, du V12 même, qui te pompe quand même d'un peu plus de 30 litres au 100.
Oh oui, mais on s'en fout, c'est pas cher.
Ils s'en foutent, ils sont riches. C'est les 30 glorieuses.
L'essence n'est pas chère.
En termes de design, ils vont faire des voitures un peu plus basses parce qu'ils vont changer de conception de châssis et vont faire ce qu'on appelle un châssis périphérique. Alors, Théo, qu'est-ce qu'un châssis périphérique ?
Bon, c'est comme à Paris, tu roules à 50. Non, pardon, je...
je savais pas. Je comptais sur toi pour le dire.
Non, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'un châssis périphérique ?
Je sais pas.
D'accord. Qu'est-ce que j'en ai...
C'est ce qu'ils adoptent, en tout cas, sur la plupart de leurs bagnoles. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je cherche la définition plus tard. Châssis périphérique, ça donne une voiture plus basse.
Ok.
Ce qui permet une meilleure tenue de route. Donc, tu peux mettre un moteur plus puissant encore dedans.
D'accord.
Ils font tout pour ça. Mais bien sûr, ils visent aussi moteur plus grand, dit forcément compartiment de moteur plus grand.
Ouais.
Alors pas que le compartiment.
Les capots.
C'est tout qu'on allonge dedans. Ouais. T'allonges la longueur, t'allonges la largeur, t'allonges la hauteur.
Parce que plus c'est grand, plus c'est imposant, plus tu montres que t'as réussi.
C'est
et puis
typiquement.
À base de chrome, à base d'éléments de carrosserie qui
le
font
fameux
que tu montres que tu.
Style chrome and. Enfin. Chrome et L en français, j'allais dire Chrome and L, mais
okay.
Non. Mais oui, un style. Alors je sais plus qui est-ce qui avait inventé ça. Je sais plus si c'était chez Cadillac ou un gars qui a lancé ça, notamment dans cette période-là. Il mettait beaucoup de chrome et des ailes sur les bagnoles.
Oui.
Ça a été repris et un plein
de
fois.
Comme les fameuses ailes Cadillac que t'avais les ailes de requin là à l'arrière.
Ouais. Dans les Corvettes, dans les Eldorado aussi. Tu vois, c'est typiquement ce genre de bagnole-là dans les années 50 qui sortent. Oui, chrome et L.
Ouais.
C'est la base des années 50, bien sûr énorme. Hein.
Puis on avait parlé de publicité où l'idée c'est de mettre, à part la Volkswagen aux États-Unis qui a été
révolutionnaire.
Exactement. Voilà. Mais sinon, c'est regardez comme elle est grosse, comme elle est belle, comme elle est imposante.
Regardez
ma voiture,
comment je peux pas me garer partout.
Ouais. Mais tu t'en fous parce qu'en plus, c'est l'époque où tu commences à avoir des banlieues aux États-Unis, des grandes banlieues avec des pavillons, avec de la place pour garer ta voiture devant. Et par contre, il te fallait absolument une voiture pour te déplacer parce que tu faisais des kilomètres et des kilomètres. Et si t'étais à vélo, c'était compliqué.
Ouais. Ouais.
Et aujourd'hui, ils s'en mordent un petit peu les doigts, mais bon, c'est comme ça.
Bah ouais.
Et en Amérique, ils ont été les premiers à intégrer un coffre dans leur voiture. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais c'est-à-dire C'est-à-dire que avant, on avait, alors au début, on avait les mâles en osier, ou alors, ouais, c'était ça, ou les protubérances, tu sais, en tôle à l'arrière pour te rajouter trois bagages. Mais bon, c'est vrai que les carrosseries, ils étaient en fait, on va dire, en bicorps avec le troisième truc qui était vraiment rajouté comme un sac à dos. Ouais. Là, on intègre cet élément de coffre à bagages dans les voitures, ce qui donne ce qu'on appelle les berlines tricorps, les quatre portes. Voilà, où on a vraiment le premier corps, ça va être le capot. Le deuxième corps, habitacle. Ça va être l'espace habitacle destiné aux passagers. Et le troisième corps, le coffre. Donc ça c'est l'Amérique, hein. Y a l'Europe. Donc nous on est en pleine reconstruction, donc nous aussi on veut des voitures, hein, mais on n'a pas de fric. Voilà. Donc on fait avec des formes beaucoup plus simples, le moins d'éléments possible. C'est par exemple à cette époque-là où les ailes qui avant-guerre ressortaient étaient spécifiques en dehors du capot pour accueillir les roues.
Pas du tout aérodynamique.
Là se font alors pas très aérodynamique.
Pas totalement non plus, mais oui.
Quoique, mais c'est surtout que ça faisait des éléments supplémentaires, alors que là, on les intègre dans la forme du capot. Alors, c'est pas encore le cas, vous remarquerez, sur la 2 chevaux qui est pourtant sortie après-guerre, mais faut pas oublier qu'elle a été conçue avant la guerre, la très petite voiture, et ils avaient.
Les plans depuis longtemps.
Des morceaux qu'ils avaient cachés pour pas que les Allemands le retrouvent, etc. Donc, ils ont juste refait ça, amélioré un petit peu la chose et sorti la voiture. Une voiture, on va dire, moderne qui sort, alors un petit peu plus tard, en 61, je vous prends l'exemple de la 4L. Qui déjà d'une a plus les ailes qui ressortent, donc on est dans une voiture dite moderne là-dessus. Il y a plus tout un tas d'artifices esthétiques qu'on avait avant-guerre, parce que là on a un vrai partir des années, de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, on a un vrai design, c'est-à-dire qu'on va pas reprendre tous les mêmes éléments et ajouter des fioritures, on va faire moins de fioritures, mais du coup plus de
à la base, on va changer déjà de base.
Voilà, parce qu'on a plus le fric pour rajouter des fioritures, donc faut bien se distinguer par autre chose. La 4L en plus arrive avec un nouveau type de carrosserie qui est la voiture 5 portes avec le haillon à l'arrière, donc la fameuse, ce qu'ils appelaient à l'époque la porte de service, c'est-à-dire que tu as les 4 portes plus le haillon qui te permet de charger dans le coffre. Il y avait que les utilitaires qui avaient ça avant, et ça arrive sur la 4L, et Renault ils vont même aller plus loin. Donc on est toujours dans cette optique de dire on laisse de la place aussi pour les bagages et on part en vacances. Alors c'est les premiers congés GPI, les premiers départs en vacances, on va dire, au-delà après des années 30. Hein. Mais il faut de la place pour les bagages, et autant que la voiture soit aussi un objet de vie, un objet pratique et non pas un objet individuel, tu vois. Et chez Renault, ils poussent le vice jusqu'à, en 65, mettre le même principe sur la R16. La R16, c'est leur berline haut de gamme. Donc je peux vous dire que dans la haute société, ça a jasé pas mal, ça a choqué tout le monde. Ils se sont dit, oh, une voiture comme ça, de cette gamme-là, j'achète pas. Finalement, ils ont acheté, tu vois, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pratique. En plus, il y avait la modularité
ils
sur la banquette.
Ils ont mis un coffre dedans, c'est ça ?
Ils ont mis quoi ?
Un coffre dans la R16, c'est ça ?
Ah bah, c'était une berline à haillons, la R16, d'accord. Mais sur une voiture haut de gamme. Et en plus de ça, ils ont rajouté de la modularité avec la banquette qui se plie, qui se rabat, etc. Ce qui n'existait pas, tu vois.
Ouais.
Et cette forme en trapèze, en fait, donc on est d'accord que sur la tricor, on a un autre profil.
Oui.
Là, on a vraiment une forme de trapèze. Ça commence à bien cartonner dans les fins des années 60, années 70, quoi. Autre innovation d'ailleurs de la R16 en termes de design, c'est les gouttières de toit. Parce qu'avant, on avait forcément la petite gouttière, tu sais, qui passait sur le haut des portes pour qu'on se prenne pas toute l'eau sur la tête quand il pleut. Mais c'était pas très aérodynamique. Et plus, en termes de design, ça rouille non, pas forcément.
Non.
Oh non, si c'est bien peint, c'est ce que j'ai sur ma 4L, hein, par exemple, t'as la gouttière qui passe tout autour. Mais c'est un peu contraignant au niveau design, tu vois. Si tu veux faire des trucs un peu stylés, autres,
une gouttière, c'est pas stylé.
C'est difficilement intégrable, dans la R16, elle est intégrée complètement au pavillon. C'est-à-dire que le pavillon, il y a une pliure, ce qui fait que l'eau arrive directement derrière sans te tomber ou en tombant moins sur la figure. C'est pas aussi efficace quand même qu'une gouttière, mais disons que esthétiquement c'est plus sympa. Ils ont réussi quelque chose. Et puis en parlant de fluidifier des lignes, hein, puisque c'était l'objectif, dans les années 70, on va essayer de travailler sur les éléments aérodynamiques qu'on a oublié jusqu'à maintenant ou qu'on savait technologiquement pas faire. C'est par exemple l'inclinaison ou le bombage des vitres. C'est-à-dire qu'avant, une vitre, c'était forcément droit. Hein, tu vois.
Oui.
Là, on arrive, dans les années 70, à faire des formes courbes pour les vitres et à les incliner plus. Et pour faire écho, on fait la même chose à l'arrière pour incliner le haillon le plus possible.
ou gagne le... un peu de place, je sais pas.
Alors tu gagnes pas de place, mais disons que ça te fait une forme, on va dire, un peu de suppositoire, tu vois, mais qui est plus cohérente. C'est-à-dire que si t'as un avant qui est vachement incliné et un arrière qui est tronqué, c'est pas esthétiquement, c'est pas ouf, quoi.
Ouais, non,
c'est... Donc tu as, alors je dis haillons, mais il y a des haillons fake. Hein. Je prends par exemple chez Citroën, clin d'œil, avec la CX ou la GS, qui étaient des voitures avec une forme de haillon à l'arrière, mais qui en fait était une malle. Parce qu'il y a un mec chez Citroën qui avait dit « Ouais, non, le haillon, ça marchera jamais. » Bon, pour l'anecdote, la GS, en fin de carrière, quand ils l'ont restylé et qu'ils l'ont rebaptisé la GSA, ils lui ont mis un haillon. Il y avait tout pour faire un haillon, tu vois. Et t'avais une espèce de boîte à gants pas pratique du tout. Tu devais te pencher pour mettre le truc.
C'était le boomer de l'époque.
C'était le boomer de l'époque. Alors que pourtant, Citroën était vachement en avance sur stylistiquement, mais ils ne voulaient pas de haillon sur leur voiture, tu vois. Et bon, ils ont fini par s'y mettre comme tout le monde. Et le fait qu'on travaille sur le CX des voitures, alors CX, c'est le coefficient de pénétration dans l'air, fait que globalement, on a aussi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, réduit la taille des voitures pour permettre de moins consommer.
Notamment en Amérique, ouais.
Parce que, voilà, on arrive dans les crises pétrolières des années 70, le prix de l'essence qui monte en flèche. Donc les paquebots américains de 6 mètres de long, t'es
les
dit,
américains,
c'est
eux,
terminé.
Ouais, voilà, eux ils étaient habitués justement à sortir toujours plus gros, toujours plus lourd et tout ça, alors que nous en Europe, on était justement déjà un peu dans le pas éco mais pas loin quand même. On faisait attention.
On s'est pris dans la gueule, enfin nous on avait moins de fric au départ.
Oui.
Donc déjà on faisait attention.
Voilà. Donc en fait nous on était déjà prêts, on va dire, à recevoir une crise pétrolière.
Ouais. Bah un peu plus
malgré
que les États-Unis.
Bah largement.
Mais au moment où on commençait, si tu veux, à avoir vraiment, aller entre guillemets, la voiture accessible à tous, donc au début des années 70,
et bim,
paf, premier choc pétrolier. En 77, boum, choc pétrolier.
Eux, ils ont vachement mal vécu la chose.
Ah, ils ont morflé,
ils ont mis des sanctions, enfin pas des sanctions, ils ont mis des normes et tout ça en place qu'ils pouvaient même pas respecter parce que. Quand tu fais plus de 30 litres en 100, qu'est-ce que tu vas dire
C'était quoi le style de normes qu'ils ont mis en place? C'était pour réduire la consommation?
Oui, c'était surtout pour réduire la consommation. Donc, ils n'ont pas pu respecter tout ça. Donc, les constructeurs américains, forcément, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on va jouer directement sur nos nouvelles bagnoles. On va réduire déjà de base. Hein. Donc, c'est là que tu vas arriver dans des périodes où tu sors des muscle cars. Tu sors des petits trucs minimalistes. Enfin, minimalistes. Minimalistes. Amérique.
Un exemple assez flagrant quand même à l'époque, c'était la Mustang, alors qu'elle était ce qu'on appelait au départ une pony car, c'est-à-dire qu'on était en dessous de la muscle car.
Ouais.
Cela dit, cette pony car avec le fric qu'ils avaient aux États-Unis, plus ça allait, plus les années passaient, plus ils rajoutaient de la grandeur sur le capot, etc., et que ça devenait la taille d'une muscle car. Voilà, dans les années 70, la
Mustang est revenue direct. Hein.
Elle est revenue, c'était même plus une pony car, là, c'était
une car.
C'est une car. Ouais, non, ça leur a fait mal là-dessus.
Ils ont dû tout revoir, hein, même s'améliorer au niveau de l'aérodynamisme, parce qu'ils avaient beaucoup de trucs angulaires aussi.
Bah, ils s'en foutaient, quoi.
Ils s'en foutaient.
30 litres 100, ça va, ça
passe. Là, tu vois, c'est la prise de conscience américaine, ils ont eu pas eu trop le choix, hein, parce que quand t'as plus d'essence, t'as plus d'essence. Hein. Mm. Donc, tu essaies de consommer moins. Tout vient de la consommation, même le design, pour vous dire, un talent que c'était important, a été affecté. Donc, tu arrives à des modèles plus ronds, entre guillemets.
C'est pour ça qu'on essaye d'expliquer les choses en globalité. Des fois, on sort un petit peu du côté purement design, parce que en fait les crises pétrolières, les avancées technologiques, etc., influencent directement le design.
Ouais.
Et d'ailleurs à cette époque-là, alors en Amérique et même un petit peu partout, on prend aussi conscience que la voiture peut être dangereuse. C'est bête à dire, hein, mais c'est vrai que
quand t'as des voitures qui sont, je sais pas, en papier, on va dire, au niveau de la coque, et que tu peux faire du 200 km/h.
Oui.
Alors, si tu te retournes, t'es mort.
Oui, voilà. Alors, il y avait ça, mais même pour les piétons, par exemple, on est en 72, en France, on est quand même à 18 000 morts par an, d'accord. Pour vous donner une idée, en 2021, on était à 3 200, donc la sécurité routière a joué un grand rôle là-dessus. Mais il y a une loi américaine qui passe à l'époque, qui essaye de protéger un petit peu les piétons, et qui oblige les constructeurs à mettre des gros pare-chocs sur leurs voitures, des pare-chocs énormes, alors qui alourdit énormément le design général, parce que tu devais avoir 15 cm de pare-chocs devant et derrière, aussi à cette époque-là, et par rapport à ça, alors pas que, mais ça coïncide en termes d'époque.
C'est quelle voiture qu'on a vue On a vu une voiture récemment avec un gros truc pointu devant.
Ah bah c'était quoi comme...
C'est pas une 504, non.
Non, mais c'était pas la Mustang. Non, je sais plus.
Peut-être une Mustang. Ouais. Justement, devant, enfin, tu m'avais fait la réflexion quand on est passé devant.
Oui.
Ça, pour tuer un piéton, c'est l'idéal.
Ah bah oui. Parce ouais, c'était oui. la forme du capot de la Mustang c'est qui ça. Était effectivement taillée en V. Ouais.
Et oui, c'était.
Ça t'embranche. Hein.
Ouais, c'est ça, ça. Ça te coupe en deux le bordel.
Ah, c'est ça.
Donc oui, ça, le la sécurité ouais. a joué un rôle sur le design ouais. aussi, ouais, hein, ouais, tout ouais. comme la consommation.
Donc bien forme bien. Un peu plus douce pour l'avant.
Amortir les chocs, on va
et
dire.
Puis et puis le pare-choc qui devient à cette époque-là en plastique. Alors notre garde aujourd'hui, quand on voit cette évolution et l'arrivée du plastique qui a fait un carton hein, dans les années 70, c'est arrivé sur toutes les voitures. On se dit bon, c'est vrai que c'était plus joli avant quand les pare-chocs étaient chromés que ces espèces de gros bouts en plastique ouais. noir. Cela dit, si on se remet dans le contexte de l'époque, le plastique. C'était plutôt stylé, tu vois, c'était oui. l'époque où le tupperware, c'était kiffant, quoi. Le plastique, c'est fantastique, plastique,
voilà.
Voilà. On met du plastique partout. Et ça fait même plutôt sport, même les gros pare-chocs noirs, parce que...
Tu peux faire des formes un peu design comparé au métal, non ?
Alors, même pas, parce qu'au départ, on maîtrisait pas autant la technologie pour y faire des formes de ouf. Par contre, à l'époque, ce qui était vachement à la mode, c'était les courses de rallye. Et sur les courses de rallye, pour ne pas éblouir
les
pilotes, ouais. sur le capot, ils peignaient les capots en noir. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait quand on a commencé à mettre du plastique, on ne savait pas vraiment peindre ou travailler dans une texture et couleur. C'était du plastique brut, donc c'était du plastique noir. Et finalement ça faisait assez sport de mettre du plastique sur une voiture. C'est pour ça d'ailleurs même que les supercars de l'époque avaient du plastique un peu partout. Parce que tu gagnais 50 chevaux quand t'avais du plastique, ça faisait voiture de rallye quoi, tu vois.
T'étais moins léger, t'étais plus léger.
Et en plus t'étais plus léger. Et ça permettait par exemple sur les pare-chocs de faire des spoilers plus bas pour avoir une meilleure aérodynamique. Ouais. Et puis en termes de sécurité, et d'ailleurs on avait parlé, tu te rappelles des Saab ou des Volvo,
oui.
à cette époque-là, eux aussi ont abusé du plastique pour montrer que plus ils mettaient du plastique, plus c'était solide quoi en fait quelque part. Ça avait cette image-là. Image ouais. de voiture sportive et image de voiture solide. Voilà, bon,
c'est plus le cas maintenant.
Non, et puis on a pris conscience aussi que c'était pas forcément très beau. Voilà, mais déjà à l'époque, on arrive dans une période où on ne sait plus faire des voitures belles pour une raison. Donc, on évoquera la semaine prochaine quand on va faire la suite de ce sujet-là, puisqu'on arrive aux années 80 avec l'arrivée de la CAO dont on avait déjà parlé, la conception assistée par ordinateur, mais qui a pas mal bouleversé le paysage automobile entre la CAO, la DAO et la robotisation, donc changer les chaînes de montage qui, depuis la Ford T d'Henry Ford, était assemblée par des humains. On est passé à l'assemblage par des robots et
ouais.
la CAO à cette époque-là et la robotisation ont fait que ça a pas mal aussi restreint les possibilités au début
de design
automobile.
Starter, le garage.
Ce soir, dans le garage de Starter, une japonaise ultra connue.
Naomi Osaka, la tennisman. Tenniswoman.
Ah ouais, tout de suite tu penses à une sportive. Alors oui, c'est une sportive. Par contre, non, c'est pas Naomi, je sais pas trop quoi là. Parce qu'on parle toujours de voitures, ce qui est normal dans le garage de Starter, t'es dit.
C'est vrai, c'est vrai.
Avec la Mazda MX-5 ce soir, le cabriolet le plus vendu au monde depuis qu'il est sorti en 89. Cela dit, son idée date de 1978, quand Mazda, qui est une petite marque hein, au Japon,
ouais,
sort un coupé qui s'appelle le RX-7. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Le RX-7? Non.
Non, pas sur le RX-7, sur cette date de 1978 où tout commence.
Ah bon?
Oui.
Ah bah oui, ah bah ok, si tout commence en 1978. Mazda, du coup, ça va partir... Attention, l'histoire de MX-5 a quand même une histoire assez intéressante. Hein. Ça part d'un gars.
C'est pour ça qu'on est là.
Ouais, ouais. Attention, petite histoire, Père Castor Teddy, racontez l'histoire.
Allez, pour vous endormir.
Ça part d'un Américain qui s'appelle Bob Hall.
Okay.
Facile à retenir. On va l'appeler Bob parce que voilà.
C'est Bob.
Bob est un jeune qui roule avec son père hein, dans une voiture, dans une mini, j'ai oublié le nom, une mini Mirror, je sais plus quoi. Ouais. Maurice Mirror.
Oui, c'est voilà. Cabriolet quand même.
Ouais. Voilà, cabriolet quand même. Hein, voilà. Ils sont arrêtés à un feu. Voilà. Et à côté d'eux s'arrête au feu une MG.
Mmh.
Une MG, je ne sais plus quoi. C'est pas important pour l'histoire.
Mais petit roadster anglais années 60.
Très quoi. Sympathique et tout ça. Mmh. Alors, je sais pas pourquoi, mais apparemment en Amérique ça se fait. Ils parlent entre conducteurs. Donc, le père de Bob parle avec le gars.
C'est tous des deux, à mon avis, genre un état comme la Californie.
T'es
arrêté au feu rouge. décapotés tous les deux. Donc, hey, tu vois,
salut,
tu
comment ça va ? Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, ils se racontent leur vie. Et il se trouve que le gars de la MG, il leur raconte qu'il faut qu'il se débarrasse de sa MG, justement, pour éviter le divorce avec sa meuf. Aïe. Je ne sais pas pourquoi, on ne connaît pas les détails.
Il l'a embrouillé pour l'avoir, quoi.
Ouais, je sais pas. Donc, bon, pour éviter le divorce, il doit s'en débarrasser. Et là, l'idée de Jenny qui viennent des deux, c'est vas-y, on fait un échange.
Ouais.
Ok. Donc, il troque ça. Et ça, c'est resté dans l'esprit de Bob. Bob, lui, il s'est dit putain, on a gagné un roadster quand même, anglais, sympa et tout, c'est cool.
Il adore les roadsters, lui. Hein.
Ouais, il était très jeune, hein, il était mineur, hein, même à cette époque. Ah ouais. Il devait avoir 10, 13, 14 ans, un truc comme ça. C'est son père hein, qui a changé.
Son père. Oui, je me disais.
Mais du coup, ça a initié quand même une certaine passion pour les roadsters chez Bob.
Ouais.
Son père a continué hein, d'enchaîner tout ça. Il a enchaîné avec des Triumphs et tout ça. Plein d'autres roadsters comme ça, petit sympa.
Ok.
Alors, ils étaient fans maintenant.
Donc, passion de père en fils.
Passion roadster, ouais. Voilà. Donc Bob, lui, est un petit jeune. Il a maintenant majorité. Il est passionné de Japon. Mm-hmm. Il lit beaucoup de mangas et tout ça. Il apprend la culture japonaise. Il apprend le japonais. Et il va même se lancer dans un petit voyage de 6 semaines au Japon hein, pour vivre son rêve.
Ouais.
Hein. Voilà. Il trouve ça cool, hein, mais il est aussi passionné de bagnole. Mais bon, au Japon, c'est pas ouf, apparemment. Donc il va revenir quand même en Amérique et il va voir un journal de voitures.
Ouais.
Qui parle des voitures japonaises.
Ok.
En japonais.
Où on est à une époque où le marché japonais, enfin le marché automobile japonais, débarque en Amérique. On l'avait vu avec quand on avait parlé moto par exemple, mais voitures c'était également le cas. Ce qui était minoritaire plutôt à l'époque, mais bon, qui s'est accentué dans les années à venir pour aujourd'hui devenir majoritaire.
C'est ça. Donc voilà, il voit des articles de sport et tout, il se dit putain, c'est vachement mal traduit cette merde. Lui, il connaissait, tu vois, il avait appris, voilà, et effectivement, l'éditeur du journal, japonais, ça l'intéressait que moyen. Hein. Donc, il va voir le gars, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils sont américains, ils font ce qu'ils veulent.
Ouais.
Il va au QO, il dit, c'est un peu de la merde ce que tu fais, hein. C'est pas trop ça. Et le gars, il lui dit, bah, vas-y, montre-moi si tu peux faire mieux. Et ben, ouais, il a été embauché du coup, hein. Parce que oui, il faisait mieux. Donc oui, il se retrouve à travailler dans un journal américain de voitures japonaises.
Mmh.
Donc il fait des traductions et tout ça, et ça va aussi lui amener beaucoup de voyages, hein, forcément, Japon, Amérique, voilà, il va faire plein d'allers-retours. Et c'est lors de un de ces allers-retours qu'il va rencontrer un certain Yamamoto.
Et la tienne aussi.
Yamamoto là.
Non. Carré sur le parking, etc.
Yamamoto, donc le président ou designer, je sais plus.
C'est le technicien en chef qui présente la RX-7 qui discute donc avec notre
de chez Bob. Mazda. Donc oui, il va rencontrer Bob, ils font une petite interview, voilà, c'est son boulot hein.
Ouais.
Et il va lui poser une question, Yamamoto, hein, comment ils peuvent faire des bagnoles, comment ils peuvent vendre des voitures.
C'est ça. Et l'autre, il va prendre une feuille et il va lui faire le croquis de ce qu'il imagine. Et ce qu'il imagine, c'est un petit roadster anglais en fait.
C'est ça.
Qui se fait plus trop à l'époque.
Un roadster petit, épuré, où tu peux te prendre les moustiques dans les dents, apparemment. Il a dit ça. Hein. une Mazda 323, mais. Enfin, une base, mais modifiée, tu vois.
Ok.
Grosso modo, il a dit ça et il lui a fait un joli dessin.
Uh-huh.
Donc cool, avec de la pastel, tout. Non, j'en sais rien. voilà.
Quelle couleur.
Donc, fin de l'interview. Tout le monde est content, il rentre chez lui. Voilà. Donc, lui, plus tard, Bob. Il va changer de journal, il va travailler sur un truc un peu plus grand hein, qui s'appelle Auto Week, si je ne m'abuse.
Ouais.
Toujours avec ses articles japonais en Amérique. Puis quelques mois plus tard, il va revoir ce fameux Yamamoto, qui est quand même une pointure au Japon. Et c'est là qu'il. Comment dire. Entre-temps, Bob il a essayé de lancer aussi. Relancer l'industrie des roadsters. Enfin, pas l'industrie, mais. En Amérique, ils avaient plus trop la mode, même dans le monde entier.
Non, c'est vrai que ça ne se faisait plus dans les années 80.
C'est plus la côte, les roadsters. On veut plus de roadsters. Voilà, donc lui, il essayait toujours d'aller voir les constructeurs. Eh, vas-y, fais un petit roadster. Eh, vas-y, vas-y.
Et il se prenait des vents à chaque fois.
Il se prenait des vents.
Ouais.
Et à un moment donné, il a rencontré Yamamoto. Et bon, il s'est dit. Enfin, Yamamoto, il a posé la question en premier. Hein. Du coup, t'en es où avec ton histoire de roadster ? Il a dit bah écoute, voilà.
Je suis toujours au point mort.
Ouais, voilà. Il dit bah tu sais quoi, viens, on va essayer de peaufiner un truc. J'ai un projet. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Donc Yamamoto qui demande ça au journaliste, enfin journaliste. Voilà. Je sais plus s'il est vraiment journaliste à cette époque-là.
Mais non, je crois qu'il travaille chez Mazda. Après, il
a travaillé avec Mazda clairement parce que justement il a conçu le roadster à partir des schémas et croquis qu'il a filé Yamamoto.
Ouais.
Donc ils ont travaillé ensemble hein, clairement. Voilà, hop, 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 ils font des petits trucs, ils font des essais, ils lancent une bagnole. Bon, ça marche pas des masses. Ils ont du mal à sortir un prototype. Jusqu'à temps qu'ils sortent un prototype qui est à peu près fiable. Ouais. Voilà.
Bon. Voilà, sur un concept qui est assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'idée, c'est d'avoir un petit moteur sympa qui est en propulsion. Donc à l'avant, mais qui
ça,
entraîne
ça va être un an après
les
prototype, je crois, mais oui.
Ouais. Le poids le plus léger possible pour en faire un objet de plaisir, pas de chichi, que du plaisir, quoi, grosso modo.
Ils reprennent tout simplement
la base
d'un roadster
des années 60.
Mais ils vont peaufiner des trucs, ne serait-ce que l'équilibrage du châssis, le fameux 50-50.
Oui.
C'est la voiture. Enfin. Cette voiture-là est. Mais
c'est idéal, une répartition 50-50. Ouais.
C'est l'équilibre parfait dans cette voiture. Ouais. Pour tout. Donc c'est ça qui va donner ce petit plus, parce qu'il y a des bagnoles peut-être mieux que ça, peut-être, pas en termes d'équilibre, pas en termes de sensation, non, pas en termes de ça.
Disons que sur ce secteur qui a été abandonné, là ils reviennent, et ils reviennent avec une proposition unique. Ça donne donc la MX-5 ou Miata. Alors c'est oui. MX-5, c'est l'appellation européenne. Aux États-Unis c'était la Miata, et au Japon ça s'est même appelé la Enos.
Je sais plus quoi.
Voilà. Et elle est sortie donc en 89. Alors on peut lui reprocher des choses quand même à cette voiture, notamment
l'intérieur. Était pas ouf apparemment.
Ouais, non, c'est pas ouf parce que c'est assemblé un petit peu à la va-vite. C'est tout noir parce qu'on voulait pas dépenser de l'argent pour mettre des couleurs, en gros. Évidemment c'est pas pratique parce que c'est pas le genre de voiture qui est faite pour être pratique.
Non.
On a une capote qui est manuelle. Il y a pas de rangement partout comme
tu vas
sur
avoir
un espace.
Le hardtop ou que ça
que tu rajoutes dessus, mais bon, faut
c'est
pouvoir le
option,
stocker dans son garage. Ouais. Tout ça, c'est voilà, c'est. Ouais. C'est pas très pratique en soi.
T'as pas d'autres options, t'as le choix que trois coloris, hein, bleu, blanc et rouge.
Bah ouais. c'est français,
bordel.
Et puis tu peux être que deux dedans avec un petit coffre. Mais par contre, voilà, c'est super mignon, c'est
pour
bien
conduire,
fait.
Tout ça, c'est nickel, tu ressens quelque chose.
Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, en termes de taille, t'es à 3,20 m et à moins de 800 kg. Donc c'est une petite voiture légère qui passe partout, donc c'est idéal. C'est tout en rondeur, en plein dans les codes du bio design qui est à la mode à l'époque, donc qui consiste à s'inspirer de la nature pour pouvoir avoir des formes douces sur ta carrosserie. Par contre, ils conservent sur la première version, ce qui était plutôt sympa, qu'ils ont abandonné ensuite, c'est
les phares pop-up.
Ouais, les phares pop-up. Alors, vous savez, les phares pop-up, c'est
K2000
qui s'ouvre, façon K2000 qui s'ouvre quand tu les allumes et qui se ferment. Ça, c'est très 80, c'est à 13 années 80, et ils l'ont conservé sur la Miata, et c'était cool. Pour le moteur, donc, on n'avait pas des moteurs Ferrari, c'est clairement des petits moteurs.
Mais bon, vu le poids, ça envoyait
quand même. 1,615 litre chevaux au départ, qui est passé à 90 chevaux avec le catalyseur, donc il devenait un petit peu juste. Mais cela dit, derrière, ils ont sorti un litre 8 de 130 chevaux
avec d'autres coloris dont une colorie spéciale anglaise, un vert anglais. J'aime pas les termes anglais, ça va être compliqué,
mais c'est vrai, comme tu dis, on avait moyen de se faire plaisir parce que t'avais une petite propulsion où tu roules les cheveux au vent sur les petites routes de campagne avec un bon châssis. Ça suffisait, quoi, les routes de montagne et tout.
C'était la voiture plaisir du gars qui avait un peu d'argent. Ouais. Enfin, même pas forcément, parce que c'était vraiment pas cher. J'ai même pas d'idée de prix, mais c'était pas un roadster super cher.
On était pas plus cher qu'effectivement une petite familiale compacte, quoi.
C'est ça.
Et ça a cartonné. D'ailleurs, ils ont même décalé la sortie chez nous parce qu'ils avaient tellement de commandes au Japon et aux States que, du coup, ils pouvaient pas suivre. Et ça a complètement relancé finalement la mode des petites cabrios, ce qui a fait que les autres constructeurs, après, dans les années 90, se sont dit
on
faisait la nôtre, ça a pas mal marché, je prends Fiat par exemple, qu'on a fait, il y a eu d'autres constructeurs qui l'ont fait, mais cela dit, Mazda, ils avaient un temps d'avance là-dessus, et ils sont
arrivés après la guerre des roadsters. Il y a eu des roadsters avant, mais c'était au point mort, et ils ont relancé un truc, faut se dire ça quand même, et c'est ça
qui a marché.
C'est
marrant parce que si on fait un parallèle avec la pop culture et les jeux vidéo, ils ont lancé la Miata, enfin la MX-5 à l'époque où ils ont relancé aussi l'industrie du jeu vidéo avec la NES, avec la Sega, Mega Drive.
Ils ont changé l'aérodynamisme de la console.
Tu sais, il y avait eu la crise des jeux vidéo au début des années 80 et ils avaient relancé le marché, comme là ils ont relancé le marché des roadsters. Ils ont relancé ça. Ils sont pas reposés non plus sur leur laurier, puisqu'il y a eu la V2 qui est sortie en 98, c'est la NB. voilà, avec toujours des codes de biodesign, avec un châssis qui était encore plus rigide.
C'était NA la première, je crois.
Ouais. C'était la NA la première, exactement. Plus sérieuse, mais toujours aussi amusante, même si elle perd les phares escamotables. Ouais, tragédie.
Je suis beaucoup moins fan de
la 2. En 2005, troisième version, c'était la NC ouais. Voilà, qui sort, qui est déclinée. Alors là, cette fois-ci, pour la première fois, en version RC. Donc c'était avec le toit escamotable électrique, cette ouais. fois-ci. C'était une pas option. Mal. Et puis, il rajoute un petit peu de puissance aussi, puisqu'il y a une version 160 chevaux qui sort. Alors même entre temps ils ont quand même rajouté un peu de poids, donc du coup ça compense un petit peu le...
Je trouve qu'on s'éloigne de l'esprit.
Bah surtout sur la version à toit rigide, parce que du coup ça pèse un petit peu plus lourd, donc ouais. tu modifies un peu le concept, mais globalement ils ont gardé l'esprit, l'esprit de la MX1.
Ils s'en éloignent toujours un peu plus, je trouve.
Et en 2015 et puis, oui, sort la ND. Qui a été restylée d'ailleurs en 2018, qui est vachement moins ronde, mais qui a un look hyper japonais, bien sympa quand même, hein, avec le concept qui est toujours aussi fun. C'est clairement ce qui se fait de mieux dans le genre, hein, c'est-à-dire que si vous voulez un petit roadster pour vous amuser, vous pensez à la MX5. En plus, ça fera plaisir au designer qui nous regarde de là-haut, puisqu'il est mort en 2021. Il s'appelait Shunji Tanaka, exactement. Voilà.
Oh, ton japonais.
Mais pas avec l'accent japonais, j'en suis désolé.
Il est aussi
fort
que l'anglais, Kevin.
C'est à peu près ça. Non, et puis bon, en plus, ce qu'il faut dire, c'est que cette Mazda MX-5, quelle que soit la génération, c'est quand même une voiture. Alors, sur les premiers modèles, qui rouille un petit peu, mais sinon, globalement, qui est super fiable, ça se revend
encore,
bien.
En plus, hein. Ouais.
On en trouve encore. Ça a été produit, quelle que soit la génération, sur tous les territoires. On en a vu partout. Ça vaut combien, Teddy, une MX-5 si on veut en acheter une aujourd'hui? Alors, j'imagine que tu as les différentes générations à nous proposer.
C'est ça. Donc, parlons premièrement de la Mazda MX-5 de 89 ouais. à 98.
18.
Donc, tu en trouves aux alentours de petite fourchette. Hein. T'en trouves pas beaucoup déjà de première génération
ouais.
et tout.
T'en as pas trouvé en France, je crois.
En France, ouais, de 89. Je voulais
vraiment.
J'en ai pas trouvé en France.
Bah, peut-être qu'elles sont pas vendues en 89 en France aussi.
C'est possible aussi.
Et oui, parce que vu qu'ils ont retardé la sortie, c'est Japon possible. 89, mais je suis pas sûr qu'on en ait eu beaucoup en France.
Il y en avait en Belgique et tout ça. Mais bon, ouais. en tout cas, de la première génération, faut viser entre 7500 et 10 000 balles.
Ouais, ce qui est pas, pas ouf, hein,
franchement, ça va. Pour
on
ouais, non, mais clairement, on peut.
J'ai pas assez de voiture.
Par contre, petite info intéressante sur les Mazda de première génération, enfin les MX-5 de première génération. Il y a un programme en 2017 qui a été mis en place pour un hommage pour Yamamoto, je crois, parce que lui aussi doit être mort.
Ah, okay.
Je crois, je suis plus sûr, mais je sais que c'est un hommage à quelqu'un de chez Mazda.
Ouais.
Ils ont mis un programme de restauration des MX-5 de première génération.
Ok, préserver un petit peu le passé de Mazda et cette icône qui est la Mazda MX-5.
C'est tellement mythique qu'ils veulent que ça roule encore, que ça continue.
Ouais, ouais.
Donc un programme de restauration. Tu as ta Mazda MX-5 de 99, enfin non, de 89. Tu vas dans un garage spécialisé, alors au Japon évidemment. Tu peux, comment dire, te faire ta petite réparation de base, hein, qui va te coûter quand même un certain prix.
Du genre ?
Je m'en rappelle plus.
Quoi que tu m'as dit.
Non, le prix de base. Attention, là j'ai le prix toute option que je t'ai dit tout à l'heure et lui je m'en rappelle un peu.
Ok.
Parce que le prix toute option, je t'avoue,
ça pique.
Oui, parce qu'en gros, ça fait un peu comme les restaurants japonais. Tu vois, t'as un truc de base et après tu rajoutes des suppléments.
Ok, et tu arrives à
60 000 balles. Donc, 6 fois le prix de la bagnole que t'as acheté d'occasion.
Ah, c'est ça.
Ouais. Tout ça pour entretenir, pour changer des trucs. Donc, tu peux changer le châssis, tu peux changer la carrosserie, tu peux faire la peinture,
t'as une voiture refaire, neuve de A à Z.
Ouais. Voilà,
mais du coup, si tu changes le châssis par exemple, ça veut dire que tu as une nouvelle voiture sur ta carte grise, non? Que ça se passe
et non, non, tu gardes quand même ton numéro de châssis d'origine.
Ah, pas mal, ouais.
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je suis pas sûr que par chez nous ça passe.
Ouais, je sais pas comment ça pourrait fonctionner, mais ouais, c'est.
En tout cas, par chez nous ça marche, compliqué. Ça passe, c'est ce qu'ils font. Ouais. Et comment dire, ils ont poussé le vis. Franchement.
J'étais en train de penser, tu peux par exemple quand tu restaures. À une 4L où ils refont des châssis, etc. Du moment que tu as ta carte grise, tu refrappes le châssis avec les mêmes numéros, ça marche. Donc,
ils ont poussé le vice de la ressemblance ultra loin. En fait, dans le sens où.
Comment ça, la ressemblance, c'est-à-dire l'aspect d'origine quoi, de la voiture.
Voilà. Ouais. Parce que bien sûr, ils ont des technologies nouvelles et tout ça.
Ouais.
Mais tout doit ressembler à la MX-5 de base.
Ouais, parce qu'ils ont plus les pièces d'origine, donc du coup c'est des nouvelles pièces.
Oh, ils doivent les avoir, mais c'est juste qu'ils adoptent des nouvelles technologies, genre par exemple les pneus.
Ouais.
Effectivement, ils les font plus comme à l'époque.
Ah bah oui,
on a des nouvelles technologies plus modernes, plus efficaces. Donc oui, ils mettent les nouvelles technologies dans les pneus par exemple.
Ouais.
sais pas, il y a des fils de fer ou je sais pas.
Quoi?
Il y a pas une armature dans les pneus?
Je sais pas comment, je si ça a vraiment évolué depuis armatures. Les années 80, mais bon, peut-être. En tout cas, oui, l'efficacité des pneus, voilà. Globalement,
l'intérieur est différent. Ouais. Par contre, l'aspect, le crantage des pneus est identique aux ceux des pneus, je sais plus si c'est Bridgestone qu'ils avaient à l'époque, vraiment dessus en série.
C'est pas mal, je sais que par exemple, sur les voitures de collection, ils arrivent à refaire des pneus qui ressemblent à l'époque avec la technologie nouvelle, mais qui sont le même design qu'à l'époque.
La peinture, c'est pareil. La MX-5 première génération, elle était disponible en 7 coloris en tout.
Okay.
Tu as le choix entre ces 7 coloris et ils ont fait technique de mélange moderne.
Sauf si
de
tu
peinture.
T'appelles Justin Bieber et que tu veux la tuner, mais après, t'es si banni de Mazda.
Je sais pas s'ils vont à l'extrême comme ça, mais bon, je pense pas que c'est dans leur mood. Mais bon, eux en tout cas, ils peuvent vous la repeindre dans les couleurs d'origine pour faire plaisir. Bon, ça a toujours un coût, on l'a dit.
En plus, la peinture ça vaut un certain prix de toute façon.
Donc, vous avez une MX-5 et vous pouvez la retaper, c'est beau. Mais il faut être riche un peu pour la retaper.
Oui,
parce que juste la voir, c'est sympa.
On change un petit peu du concept de base qui est d'avoir un petit roadster abordable. Ouais. Là, on devient.
C'est pour conserver la légende. Et effectivement.
Mais ça conserve, si vous voulez, le Mazda MX-5 première génération en état irréprochable, sortie d'usine. Quoi.
Collectionneur, là, je pense qu'on parle ça comme ça.
Ouais.
Après, il y a ceux qui voudraient une MX-5, pas forcément collectionneur, donc celle de 98.
Ouais, qui est moins chère, je crois, globalement. Enfin,
carrément, c'est presque moitié prix. Hein. T'en trouves à 5000, premier prix. Jusqu'à 8500.
J'avais regardé, moi je t'avoue.
Ouais.
Parce que ça me plaît comme type de voiture. Alors bon,
y a pas les pop-up.
Ça te restreint. Non, t'as plus les pop-up, mais la ligne générale est quand même plutôt cool.
Oui.
Bon, par contre, ça reste une voiture plaisir, donc à utiliser tous les jours. Tu veux partir en vacances avec et tu peux pas. T'emmènes des amis, tu peux pas. Voilà, faut l'avoir en deuxième voiture. Ou en voiture, si t'es jeune et un peu friqué, tu peux.
Donc ça passe, tu peux te lâcher.
Plutôt que d'avoir une Clio Société, c'est quand même plus cool.
Clairement. Et puis en termes de budget, ça passe toujours mieux que la Mazda MX-5 de 2015, la troisième génération, qui elle tape dans les 25 000, 33 000.
Ouais, parce que c'est encore trop récent pour décoter. Moi, je t'avoue que ce qui m'a aussi arrêté sur le concept de la MX-5, c'est qu'on vit en région Centre-Val de Loire et qu'il pleut à peu près tout le temps. Parce que tu vois, je vivrais au Portugal, je pense que je me serais fait plaisir là-dessus, tu vois. Avec un cabriolet. Alors
les roadsters, ça n'a jamais été trop mon truc parce que moi, il m'a toujours fallu de l'espace dedans.
Ah oui.
De l'espace dans le coffre. Moi, il me faut une voiture qui ait l'espace d'un utilitaire.
Achète un Renault Espace.
Ouais, mais justement, une voiture sans l'espace utilitaire.
Ah oui.
Mais qui a l'espace à l'intérieur d'un utilitaire.
Ouais.
C'est compliqué.
Tu veux une berline américaine des années 50 de 10 mètres de long.
Starter. Sur Indestar.
C'est pas faux. Bienvenue sur Indestar si vous nous rejoignez à 22h14. Alors évidemment, si vous avez loupé le début, vous allez pouvoir le suivre sur toutes les applis de podcast en ligne. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là partout et avec vous.
Parce que c'est faux en fait. On n'est pas que sur Indestar.
C'est vrai.
On est aussi sur YouTube, sur Twitch, sur.
On est partout. Ouais.
On est comme.
La misère.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est ça l'expression.
Je cherchais.
Comme la misère, on est partout. Ça fait plaisir comme expression. On a des insolites, c'est plus gay.
Oui. T'as quoi du coup?
Ah, alors moi j'ai quelque chose. Si vous aimez les Porsche, que vous vivez en Allemagne et que vous êtes riche. Bon, ça fait pas mal de conditions, tout ça, j'avoue. Mais on a un truc qui pourrait vous plaire, puisque Porsche se met à faire de la LOC avec son Porsche Drive Flex. C'est son programme.
L'idée, elle
est simple. C'est-à-dire que pour seulement 2899€ par mois, une bagatelle, tu peux conduire une Porsche au quotidien et changer de modèle quand tu veux. C'est-à-dire que t'as un modèle, voilà, la Porsche de ton choix, du catalogue. Alors, j'imagine que ça prend pas en compte les modèles spéciaux, ultra sportifs, etc. Ouais. Mais la gamme classique de chez Porsche.
Le Porsche Cayenne, du coup, tu peux.
Tu peux. Donc, t'as une Porsche. Imagine, t'as un Porsche Cayenne et puis tu dis, en fait, c'est de la merde.
Je veux un Porsche Carrera.
Je veux une Porsche Carrera. Bon, et il suffit de le signaler à l'appli et en deux jours, tu as la nouvelle voiture qui arrive dans ton garage. Voilà. Qui arrive, à mon avis, directement à la maison. Je sais pas comment ça marche, mais en tous les cas, t'as un échange. D'ailleurs, tu dois changer régulièrement comme ça. Tu peux te faire ta garde-robe de Porsche, en fait, finalement, que tu changes en fonction de tes envies. Cela dit, t'es limité quand même à 1750 km par mois. Parce que quand même, sinon, après, faut payer un supplément kilométrique. Faut pas exagérer non plus. On est qu'à 2899€ par mois, mon petit Teddy.
C'est vrai, hein.
Bon, j'avoue, c'est un peu plus cher que du leasing de chez Dacia avec ta Sandero, mais bon, c'est la gamme Porsche en même temps, donc voilà, on comprend.
Oui. Alors, moi, j'ai un peu plus fun quand même.
Okay.
plus.
T'es fun, si, Porsche,
fun,
quand même.
Fun est beaucoup moins cher, surtout.
Ok, ouais.
Y a une vidéo qui fait le buzz. Enfin, qui fait le buzz. Je sais pas si elle fait le buzz, mais en tout cas, elle tourne et franchement, je la trouve excellente. Vous imaginez, vous roulez sur une route, une petite route de campagne où tu passes qu'à 1.
D'accord.
T'es là ouais. avec ta bagnole, voilà, sans doute c'était une petite Clio, je crois.
Ok.
Voilà, et en face de toi, tu vois un gros. Enfin, pas un tracteur, une moissonneuse-batteuse.
Ouais.
Tu sais, les vertes et blanches.
Comme ça, là. C'est compliqué.
Oui. Surtout que tu sais, avec les gros automateurs devant. Voilà.
Déjà, tu ne croises pas cette moissonneuse-batteuse-là, et si t'es derrière, tu ne la doubles pas et tu roules à 20 pendant.
C'est en face à face.
Ah ouais, là en face à face.
Donc
fossé,
toi il vient vers toi et toi t'es là. Donc du coup bah t'es arrivé, la moissonneuse est arrêtée. Mm-hmm. Donc toi bah forcément tu vas t'arrêter parce que tu passes pas.
Hein ouais.
Personne passe hein, de toute façon. Il y a pas de côté de route, ça existe pas.
Faut trouver un chemin pour pouvoir aller sur le bas côté quoi.
Non, ça c'est plus marrant. À ce moment là, tu as le conducteur de la moissonneuse qui sort de sa moissonneuse.
Ouais.
Il est déguisé en Gandalf. Alors toi, jeune inculte, tu le.
C'est comment ouais, ça s'appelle
c'est Seigneur des Anneaux parce que je l'ai regardé avant et il l'avait oublié.
Oui.
Donc oui, Gandalf des Seigneurs des Anneaux, donc barbe blanche, chapeau de sorcier, tenue grise et tout, avec son bâton. Tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fait dans
ça cette? Ça impressionné, surtout que t'es tout seul à la campagne face à lui. Tu te dis qu'est-ce qui va m'arriver?
Mais oui, Gandalf c'est un truc de. D'Heroic Fantasy, ça n'a rien à voir avec une moissonneuse-batteuse.
C'est vrai que tu imagines pas l'agriculteur dans son tracteur
mais non.
Avec la.
C'est Gandalf fait partie du monde d'Heroic Fantasy, tu vois, ouais. Épée, magie, tout ça, voilà.
Okay.
Ça n'a rien à voir avec les moissonneuses. Et il dit la phrase iconique du film, alors en anglais c'est Chou, notre passe.
Je suis ton père.
Non, ça c'est Star Wars. Non, vous ne passerez pas.
Ah.
Dans le film, il empêche un gros monstre en gros de passer et il fait passer ses copains,
hein,
Frodon et sa bande à côté du Balrog.
Okay.
Voilà, là qui est
beaucoup de pop culture que je ne connais pas là. Hein.
Ouais. Le Balrog là qui est en l'occurrence une Clio. Hein.
Ok.
Donc il fait ça devant la Clio. Puis juste à côté, tu vois quoi débarquer de derrière la moissonneuse, un petit tracteur avec une remorque qui passe dans le champ. Et qui avance comme.
Qui contourne.
Oui, qui contourne comme dans le film. Et tu vois derrière tous les acteurs. Alors, les acteurs. Des gens déguisés, hein, déguisés en Frodon, Aragorn et tout ça qui passe. Et qui dit Gandalf, non. Parce que oui, dans le film, ils font ça. Parce qu'ils sacrifient.
Le mec s'est retrouvé en fait en plein milieu d'une scène de film.
C'est du troll. C'est du troll.
Ouais,
c'est obligé.
J'avoue, c'est pas mal.
Et les gars, ils passent en tracteur. Mais tu sais, ils passent à fond en tracteur.
Ouais.
Dans le champ, c'est trop fou. Enfin, c'est trop fun. Puis juste après, tu vois quoi sortir sous la moissonneuse? Tu vois un gars iconique aussi de Seigneur des Anneaux qui s'appelle Gollum.
Oui.
Gollum, une petite chose créature de nom, voilà, qui cherche l'anneau. Seigneur des Anneaux. Hein. Mm. Mon précieux, tu vois, il dit ça comme ça. Et là, tu le vois se balader. Alors, c'est un gars torse nu avec un bout de short à la con et okay. avec un masque dégueulasse. Il se met à courir dans le champ. Il se dit, ah, il est où mon anneau? Qui est comme ça. Puis t'as le gars dans le Clio. Bah,
qu'est-ce que tu fais quand t'es désemparé quand c'est comme ça?
J'espère
que ça a été filmé.
Ça a été filmé.
Ouais, parce qu'imagine, c'est moi qui arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ces gogoles là? C'est qui qu'ils font et qu'est-ce que c'est que ça?
Franchement, je trouve la vidéo géniale. Je sais pas, bah, allez voir hein, par auditeur.
C'est ça. Ouais.
Cherchez, vous allez trouver, mais franchement.
Et tu crois que c'est pas du fake, que c'est à dire que le mec arrivé en Clio il était totalement innocent et il était pas dans le truc quoi.
Je sais pas, mais même si c'est fake, c'est fun.
C'est bien fait.
Parce que oui, ça n'a pas de sens, mais bon, c'est marrant. Pourquoi pas.
Et bah allez voir la vidéo après qu'on vous ait donné le sondage de la semaine.
Starter, le sondage.
Alors. Par rapport à notre sujet du jour, qui continuera d'ailleurs la semaine prochaine, qui est sur le design, est-ce que vous êtes plutôt voiture anguleuse, donc avec des angles plutôt carrés, enfin tu vois, dans le principe, ou plutôt arrondi? Vous choisissez. On vous met la question en ligne dans quelques minutes sur indestar.fr, alors sur plutôt les réseaux sociaux, la page Facebook Indestar, hein, et puis Indestar Radio, ça c'est notre compte sur Instagram, à rejoindre d'urgence si ça n'est pas encore fait. Vous votez, on débrief la semaine prochaine dans Starter 21h lundi soir.
Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar, dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.